vu si on va revenir sur ces incendies criminels qui ont touché les alentours de Jérusalem. Est-ce un nouvel instrument de déstabilisation au service du projet terroriste? On fera également un bilan sécuritaire avec votre invité.
Raphaël Jérusalem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien officier du renseignement de Tzal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Blaise l'a dit, cette semaine, Israël vient de clôturer 2 jours de cérémonie, la fête du souvenir, puis la fête de l'indépendance, coup sur coup, une semaine assez mouvementée qui a été perturbée par des incendies. Alors, quel bilan on en tire, Raphaël Jérusalem?
Bien, pour l'instant, il semblerait que ces incendies soient d'origine accident naturel et pas des incendies comme on a soupçonné perpétrés par des pyromanes ou même des terroristes, ce qui n'est pas rassurant pour autant puisque il y avait un manque de préparation sur le plan du matériel. Il faut vraiment saluer la bravoure des pompiers et des forces qui en sont intervenues parce que ils ont fait un énorme incendie et, comme je le dis, il y avait un manque de matériel. Une fois de plus, on se tourne vers un certain ministre, Monsieur Ben-Gvir, qui, par manque de professionnalisme, n'a pas entendu les conseils des spécialistes et a bloqué l'achat de matériel, dont des hélicoptères de combat contre le feu. Et donc, il va falloir absolument, nous avons déjà eu des accidents de cette ampleur, par exemple dans le Carmel il y a quelques années, et là aussi il y avait eu un manque de matériel. Je pense que c'est endémique, je pense que ce n'est pas particulier à Israël, je suis sûr que c'est pas mieux en Belgique ou ailleurs. C'est-à-dire, il y a toujours cette négligence par rapport au danger qui est croissant, car ce qui se passe c'est que malheureusement avec le réchauffement climatique, eh bien ce danger d'incendie va en croissant.
Donc on peut confirmer aujourd'hui que ces incendies n'étaient pas criminels et donc ce n'est pas un nouveau instrument de déstabilisation au service du projet terroriste du Hamas alors?
Pour l'instant, c'est la version officielle de la police. Il y a eu 2-3 suspects qui ont été arrêtés parce qu'on avait craint que ces incendies naturels inspirent des incendies criminels ou terroristes. Et pour l'instant, en tous les cas, il y a une enquête qui est menée, mais pour l'instant, la théorie est bien celle d'une. Apparemment, un des incendies principaux serait une négligence d'une personne qui était en excursion dans les forêts dans les collines de Jérusalem.
Alors, les opérations militaires continuent. Tzal a publié un communiqué ce matin pour réaffirmer ses objectifs de guerre. Donc, c'est la libération des otages, le démantèlement du Hamas. Quels autres éléments importants faut-il retenir de cette communication, Raphaël Jérusalem?
Le plus paradoxal ou ironique, c'est que vous avez parlé effectivement des 2 objectifs de guerre. Si vous prenez le premier ministre israélien, l'objectif de guerre numéro 1, c'est le démantèlement du Hamas. L'objectif numéro 2, c'est la libération des otages. Et si vous prenez le chef de l'état-major, Eliam Zamir, l'objectif numéro 1, c'est la libération des otages. Et le numéro 2, c'est le démantèlement du Hamas. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un petit problème de coordination dans les discussions. Et c'est, si je rappelle ce qui s'est passé donc ce matin, cette différence, c'est que ces différences existent depuis le début de la guerre du 7 octobre, c'est-à-dire depuis le début de la guerre du 7 octobre, on a un ping-pong en nous disant quel est l'objectif numéro 1, quel est l'objectif numéro 2. Ce n'est pas une bonne chose pour la définition de la mission de Tzahal, et donc il y a ici un problème. Alors, le second problème, c'est que on est peut-être à la veille d'une intensification de l'attaque de Tzal contre le Hamas à Gaza, et là, quel que soit l'objectif 1 ou 2, c'est le choix de la pression militaire qui est prônée, et donc là le chef de l'état-major et le Premier ministre sont d'accord. Devant l'échec diplomatique, ils envisagent donc un accroissement de la présence militaire de Tzal dans Gaza, une intensification des combats.
Donc vous dites, Rafael Girolami, si je comprends bien, qu'il c'est possible que ça mette en exergue une sorte de dissension entre l'exécutif et l'état-major militaire d'Israël.
Oui, absolument. Elle était à l'époque entre le chef de l'état-major Herzi Halevi et le gouvernement. Là, c'est maintenant un nouveau chef d'état-major qui semble encore plus proche des intérêts de l'armée et qui défend en fait l'armée par rapport aux politiques. Je rappelle qu'il y a de l'eau dans le gaz aussi avec le chef du Shin Bet, et il y a de l'eau dans le gaz mais avec le chef de la police. Le chef de la police est même peut-être le plus ironique parce qu'il a été nommé par le ministre Ben Gvir comme son candidat. Il a donc choisi lui-même ce nouveau chef de la police qui, pas plus tard que donc au début de la semaine, a interdit à tout officier de police de parler avec le ministre Ben Gvir et qu'il limogerait n'importe quel officier de police qui désobéirait à cet ordre. Ils sont donc aussi plus ou moins fâchés. Il y a ici un problème qui n'a jamais arrivé depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël. On n'avait jamais vu à ce point des divergences entre le politique et le militaire. Je rappelle qu'Israël étant une démocratie et entendant le rester, c'est quand même le politique qui a priorité sur le militaire quant aux décisions, aux ordres à donner. L'armée est au service du gouvernement et non l'inverse. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'armée, c'est quelque chose de professionnel. Et je vous prends pour exemple un médecin. Si vous êtes un médecin et vous considérez qu'il faut opérer et non pas seulement prendre une pilule, même si le patient vous dit qu'il veut prendre une pilule, votre rôle professionnel vous oblige à dire non, il faut opérer. Et donc le rôle professionnel du chef de l'état-major de Tzahal, c'est de dire ce qu'il en est sur le plan sécuritaire, que ça plaise ou non aux oreilles du gouvernement, ce qui n'empêche pas qu'en fin de compte, c'est le gouvernement qui prend la décision ultime. Et en général, l'armée obéit. Je veux dire, l'armée peut avoir des différences d'opinion, mais l'armée ne va pas désobéir au gouvernement en Israël.
Alors, je voudrais aborder un autre sujet avec vous pour la question des otages. C'est le second élément de ces objectifs de guerre. Les négociations piétinent, une proposition est sur la table, mais plus le temps passe, plus les familles s'inquiètent. On a l'impression que la situation s'enlise. Est-ce qu'on a des nouvelles informations sur ce nouveau front, si je puis dire ?
Alors, la situation s'enlise. On a, de la part de la femme du Premier ministre israélien, puis durant la nuit... de la part de Donald Trump, le président américain, des indications ou des allusions comme quoi il n'y aurait plus 24 otages vivants, mais bien moins. Si c'est vrai ou pas vrai, c'est pas tellement important pour l'instant. Ce qui est important, c'est de l'avoir dit au moment où on est en pleine négociation. C'est donc une erreur sur le plan de négociation de dévoiler ce qu'on sait ou on ne sait pas. Et surtout de dévoiler qu'on ne sait pas en vérité, et donc c'est le Hamas qui tient les cartes. C'est vrai que ça piétine, et à chaque fois c'est saboté par un autre élément. Alors aujourd'hui c'est plutôt le Qatar qui sabote les négociations de par la jalousie qu'ils ont exprimée à l'égard des Égyptiens qui prennent maintenant le commandement des opérations, oserais-je dire. Les Égyptiens, c'est le médiateur privilégié pour discuter avec le Hamas, et certainement pas le Qatar. Le Qatar aujourd'hui devient un véritable obstacle, une entrave aux négociations. Il faudrait confier ça uniquement aux Égyptiens.
Si il y a déjà des dissensions entre les médiateurs, c'est d'autant plus inquiétant, si je puis dire. Alors, Israël a effectué ce matin de nouvelles frappes en Syrie pour un nouvel élément de cette guerre. C'est l'enjeu de la communauté druze, ces massacres de la communauté druze en Syrie. C'est ce qu'on redoutait depuis la Syrie post-Assad, pardon.
Oui, alors pour l'instant, le nouveau gouvernement syrien nie avoir la main dans ces échauffourées racistes, tribales, ethniques, dont les Druzes sont les victimes. Peut-on les croire ou ne pas les croire ? Apparemment, les Iraniens ne les croient pas tout à fait, puisqu'ils leur ont tapé sur les doigts cette nuit en envoyant une sorte d'avertissement avec un tir de drone sur le palais présidentiel à Damas, mais un tir qui était sur un des jardins du palais présidentiel et de faible contenu explosif. Donc c'est bien un signal qui a été envoyé avec un vol d'avion sur israélien au-dessus de Damas pour mettre en garde le gouvernement syrien de ne pas laisser tomber les Druzes, de ne pas laisser commettre des atrocités. Israël interviendra, Israël est engagé moralement auprès de la population druze, puisque nous avons énormément de druzes en Israël, qui sont des piliers de la société israélienne, qui travaillent beaucoup dans l'armée, les services de sécurité, la police, mais qui contribuent aussi culturellement, économiquement, au bien-être du pays. Et donc, nous avons un engagement certain à défendre les druzes, nous avons un engagement moral à défendre les Kurdes, et surtout nous voulons pas voir la Syrie basculer dans le chaos, être récupérée par les Iraniens ou les Turcs. Et donc nous allons devoir faire un peu les gendarmes. Je rappelle que l'Europe et les États-Unis n'ont pas été capables en 2011 de faire les gendarmes en Syrie et ont laissé une guerre civile atroce se dérouler sans rien faire, avec des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Cette passivité du monde occidental est donc coupable de tous ces morts, de toutes ces tragédies humaines. Espérons qu'Israël assumera ce rôle moral que donc l'Europe n'a pas été capable d'assumer à l'époque de la horrible guerre civile. Le régime d'Assad, ça faisait longtemps qu'il aurait dû tomber. Maintenant qu'il est tombé, il faut absolument faire attention que la Syrie ne tombe pas dans un régime qui soit peut-être pire, si on peut parler ainsi.
Une situation qu'on continuera bien évidemment de suivre avec vous, Raphaël Girouzami. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement de Tsahal. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.